on a survécu après avoir chaviré, n'est-ce pas? J'ai marché sur des oursins de mer, les épines dans les pieds, le corral de feu sur les jambes, et quelqu'un sont venus nous secourir. Ça, c'est une expérience. L'autre, au New Jersey, j'ai eu l'idée brillante de louer un catamaran. Et il y avait Elisabeth que je fréquentais à l'époque, donc c'est important. Je voulais l'impressionner, et ses deux sœurs embarquent les trois filles sur le catamaran, puis on part. Et qu'on allait vite, c'est pas possible. Mais quand est venu le temps, on l'avait loué, je ne sais pas, pour une heure, deux heures, de ramener le catamaran, moi, je ne savais même pas comment descendre une voile. Puis il y avait un bon vent, et on est passé peut-être 12 fois devant le quai parce que je ne savais pas comment rentrer le bateau. Finalement, on l'a rentré à pleine vitesse dans le quai. Il y a deux semaines, nos voisins qui ont un très grand voilier nous ont invités sur le lac des Deux-Montagnes. Et là, c'était extraordinaire. Voilà, ils s'y connaissaient. C'était calme, et s'il y avait eu tempête, eux autres, ils sont habitués. Le texte ce matin, je pense, même si vous n'êtes pas marin, même si vous n'avez pas l'intention d'aller sur l'eau, je pense que le texte de ce matin, c'est quand même pour nous. Que vous soyez chrétien ou non, il faut savoir que les chrétiens sont appelés des gens de foi. Vous le savez. Des personnes qui croient. Des hommes et des femmes qui placent leur confiance en un être suprême et qui se tournent vers lui justement quand ça va mal. Des fois, on accuse les chrétiens d'utiliser Dieu un peu comme une béquille, vous vous tournez vers Dieu seulement quand ça va mal. Non, on se tourne vers Dieu en tout temps, aussi quand ça va mal. On est des gens de foi. Lorsque la raison ne semble plus suffire, lorsque l'espoir semble être vraiment foutu, lorsque les circonstances sont telles contre nous, on se tourne vers Dieu, on est des gens de foi. Écoutons ce que Matthieu écrit dans son Évangile au chapitre 8, au verset 23. « Jésus monta dans la barque et ses disciples suivirent. » Belle image, on y reviendra. Alors il s'éleva sur la mer une si forte tempête que la barque était couverte par les vagues, et lui, il dormait. Donc, vous reconnaissez l'histoire. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en disant, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et un grand calme se fit. Plein d'admiration, ces hommes se disaient, « Quel est celui-ci? Car même les vents et la mer lui obéissent. » L'auteur aux Hébreux va écrire ceci, « Or la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et c'est à cause de cette foi-là que les anciens ont reçu un bon témoignage. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, versets 1 et 2. C'est de cette foi-là qu'on veut parler ce matin, que ce texte nous parle. Cette foi-là. La foi, c'est ce que nous montrons quand nous n'avons rien d'autre à montrer, quand on a justement les mains vides. On sort de nos poches notre foi, l'assurance, la confiance, la paix, la certitude, que ce qui ne se voit pas est là, que nous mettons notre confiance dans le Dieu invisible. La foi, c'est drôle, c'est une démonstration, vous voyez? C'est une démonstration. La foi rend visible ce qui est invisible. L'invisible est là, n'est-ce pas? Dieu est là ce matin. Dieu sera là tout à l'heure à la maison. Dieu est là. Mais c'est ta foi qui peut le rendre visible aux autres. La foi, c'est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. La foi rend le visible, l'invisible visible. C'est à cause que j'ai de la foi C'est à cause que tu as une foi que quand ça va mal, tu pourrais le vivre autrement. Notre texte de ce matin nous amène sur le bateau qui est sur le point de s'enfoncer dans la tempête. Ils sont plusieurs dans le bateau, ils sont sur la mer de Galilée, et au moins quelques-uns de ceux dans le bateau sont des pêcheurs. Ils en ont vu des tempêtes, ils sont habitués à la navigation. Ils en ont vu. Puis il y en a un autre qui, lui, dort au milieu de l'orage. Ce Jésus, il dort. Signe d'au moins deux choses, il me semble. Un, il était très fatigué. Il suffit de voir ce qui précède et on voit que Jésus a eu une grosse journée. Ce n'était pas sa journée de sabbat. Il était vraiment fatigué, au point comme Alice, mardi, aucune idée de ce qui se passe, une dame de foi, mais aussi une femme qui était fatiguée. Elle dort. Elle se restaure. Jésus dort malgré tout ce qui se passe parce qu'il est fatigué. Il est épuisé. Ce Jésus est homme, ce Jésus est humain, ce Jésus est épuisé. Ce Jésus dit, lâchez-moi, laissez-moi en paix, j'ai besoin de dormir. Ne l'oublions pas dans le reste du texte. Ce Jésus n'est pas seulement celui qui parle au vent, mais c'est celui qui dit, vraiment, j'ai besoin de dormir. Pleinement Dieu et pleinement homme. Jésus dort parce qu'il est fatigué, et Jésus dort aussi, j'ose croire, parce que ce n'est pas quelqu'un qui s'inquiète. Jésus n'en est pas un pour s'inquiéter. Essayez de vous rappeler dans les récits des Évangiles, quand Jésus, là, il a perdu le nord, là, il a paniqué, il ne pouvait pas. Jésus ne s'inquiète pas. On le voit tenté par l'inquiétude. On le voit humainement vivre le début d'une inquiétude et tout de suite, il se tourne vers Dieu, il remet ça entre les mains du Seigneur. Jésus dort parce qu'il est fatigué, il dort aussi parce que c'est un homme de foi. C'est un homme qui fait confiance à Dieu, donc il dort. Il n'y a pas d'insomnie chez Jésus. Remarquez dans le premier verset, il monta dans la barque et les disciples le suivirent. Drôle d'image un peu. C'est lui, Jésus, qui avait initié le voyage. Toujours faire attention quand Jésus initie quelque chose. Il y a quelque chose en tête. Il monte un plan, un scénario. Il faisait souvent ça avec ses disciples. Ses disciples le suivent tout simplement. Montent dans la barque avec lui. Peut-être, on ne le sait pas, peut-être qu'un ou deux pêcheurs diraient, hey, c'est pas beau le ciel, là. J'ai écouté sur Météo Média tout à l'heure, puis il annonce à 3h30 là, que ça ne sera pas beau. Mais non, ils embarquent, ils suivent Jésus comme un disciple est supposé faire. Et il y aura une tempête si forte, nous dit le texte, si forte, super forte, forte au max. La mer de Galilée était habituée d'avoir de ces orages imprévisibles et immenses. Mais semble-t-il que cette fois-ci, c'est le top des tempêtes. Et l'eau se met à rentrer dans le bateau, et si vous avez déjà été dans une embarcation et l'eau se met à rentrer, c'est pas prometteur, surtout si la rive est encore assez loin. Mais Jésus est totalement serein, il est au pays des merveilles, il dort. Et il se fait réveiller subitement. Des fois, on pourrait penser, mais... Petite parenthèse, moi, quand on me réveille comme ça, je ne suis pas de bonne humeur. Peut-être Jésus n'était pas de bonne humeur, se faire réveiller comme ça, là. Parce qu'il va les reprendre, hein? Il va les reprendre dans notre texte et dire, « Hey, c'est quoi l'idée, là? C'est quoi la panique? C'est quoi la peur? » Gens de peu de foi. Jésus les reprend après s'être fait réveiller. En criant, « On coule, sauve-nous, nous périssons. » Jésus les reprend sur deux choses. « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Il les reprend sur deux choses, leur peur et leur manque de foi. Et j'aimerais vous proposer que c'est peut-être fondamentalement une seule chose. Vous pourrez conclure comme vous voulez. Jésus intervient, on a vu le récit, il leur donne à la mère de se calmer, et c'est fait. On ne sait pas si Jésus a repris son sommeil, s'il a pu se rendormir et finir sa nuit, on ne le sait pas. Mais en tout cas, pour le reste de la traversée, les disciples, il y avait beaucoup à se dire. Et se posait la question fondamentale, mais c'est qui ce Jésus? Qui est ce Jésus qui contrôle la nature? On vit à une époque où les changements climatiques, ça fait la une des journaux à chaque semaine, à chaque jour carrément. C'est la plus grande, en tout cas une des plus grandes préoccupations de la planète. Ces orages, ces tempêtes, ces cataclysmes qui semblent apparaître sans avertissement. Et voici un dénommé Jésus qui se lève et qui prend autorité sur le climat. Petite parenthèse, sujet des discussions avec vos amis. Il faut être capable de s'en sortir aussi de la discussion. Quand même, ça ouvre une porte. Ils sont remplis d'admiration pour Jésus. Effectivement, nous le sommes et nous le serions aussi. Voyez-vous que malgré tout ce que les disciples avaient vu, puis là, il faudrait retourner jusqu'à Matthieu chapitre 5, le sermon sur la montagne. Ils sont là, les disciples, au pied de Jésus, sur la montagne, et la foule est autour, et c'est un séminaire gratuit offert par Etem et Bivy, plus. Toute une journée d'enseignement, suivie de la guérison d'un lépreux, suivie de Jésus qui se rend chez Pierre et qui va guérir la belle-mère, et il va guérir toutes sortes de malades qui viennent le voir et il va délivrer toutes sortes de démoniaques. Il va aussi guérir le serviteur du centenier, un soldat romain, qui dit « Non, non, il n'y a pas besoin de venir chez moi, là. Dis un mot, là, puis tu vas voir. Je sais que ça va être mon serviteur sera guéri. » Puis effectivement, c'est ce qui se passe. Jésus a eu une grosse journée. Mais les disciples, ils ont tout entendu, ils ont tout vu, mais ils sont comme, ils se posent encore la question, qui est ce Jésus? Puis n'est-ce pas vrai qu'on peut se la poser longtemps, cette question-là? Peut-être que ça fait longtemps que tu te la poses. Et tu peux arriver à lire des livres, il y en a un paquet de livres, c'est de l'Institut biblique Vie en arrière. Vous venez prendre un cours à IBV, Etam IBV, vous pouvez étudier, apprendre, répondre, qui est Jésus? Et vous pouvez quand même continuer à vous poser la question puis pas être satisfait. Savez-vous pourquoi? Parce que il te faut répondre à la question au milieu de ta tempête à toi. Là où Jésus peut véritablement te convaincre qu'il est capable. Ces pêcheurs avaient vu Jésus faire toutes sortes de choses extraordinaires, mais ils ne l'avaient jamais vu. En plein milieu de là où eux devaient contrôler, eux étaient les spécialistes, c'était eux les spécialistes de la barque. Jésus ne connaissait rien de cela. Et ils ont dû s'humilier, supplier ce charpentier qui dormait de les secourir. Qui est Jésus? Jésus, c'est Dieu lui-même. Qui veut venir là où tu penses être le plus fort et la plus forte, et que tu découvres que ce n'est pas le cas, et que tu commences à trembler, c'est là que tu appelles Jésus. Puis c'est là que tu vas savoir qui il est. Jésus venait d'enseigner le sermon sur la montagne. Quelle belle prédication! Ils n'avaient pas encore compris, les disciples. Le sermon sur la montagne termine en passant avec quoi? Qui peut me dire le sermon sur la montagne termine avec quel parabole au récit. Chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7 à la fin. Un homme bâtit sa maison sur le sable et l'autre sur le roc. La tempête vint, n'est-ce pas, la pluie, tout ça. Le sermon sur la montagne contient même un récit de tempête, d'orage, puis de comment faire confiance. Les disciples, ils ont tout entendu. Ils n'ont pas encore compris. Ils n'ont pas dit « Oui, Jésus, je te donne la voile. Je te confie ma vie. » C'est dans ce sermon sur la montagne que Jésus leur dira « Ne vous inquiétez de rien, ni de ce que vous... Ne vous inquiétez pas de votre vie, Jésus dit. » Ça sert à quoi vous inquiéter? Vous pensez rallonger votre vie de 3 semaines, de 8 mois, même pas d'une seule coudée? Ça sert à rien de vous inquiéter. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Sur la barque, la tempête, je m'imagine, je me mets à leur place. Non, je m'inquiète. Pour ma vie, je ne cherche pas le royaume de Dieu. Ça peut attendre à plus tard. Ils ont tout entendu, ils ont tout vu, les guérisons. Ils ont vu Jésus un seul mot en disant, « Il est guéri ton serviteur, monsieur le centenier. Je ne me rends même pas chez toi. » La parole, l'autorité de Jésus, ils avaient vu, ils avaient entendu, mais c'est quand ça touche de près ma vie. Moi, dans ma vie, j'ai eu quelques tempêtes. Je me souviens, à l'âge de 30 ans, j'ai découvert qu'un chrétien peut vivre des tempêtes. J'avais 30 ans. Tempête. Dans les domaines de ma vie où j'étais le plus solide, le plus sécure, mon couple, mon ministère pastoral, l'orage est venu. Dans un de ces orages, j'ai fui. Dans l'autre, je suis demeuré ferme avec Élisabeth, gloire à Dieu. Mais j'ai quitté vite mon ministère, j'ai claqué la porte, je suis parti. La tempête où Dieu veut nous rencontrer, c'est la tempête là où c'est le plus précieux pour toi. Nos enfants, 3 garçons. Il y a toutes sortes de tempêtes. Vous qui avez quitté votre pays, souvent à cause des tempêtes là-bas, pas des tempêtes de pluie, mais d'autres genres de tempêtes, et vous retrouvez ici, peut-être dans d'autres genres de tempêtes, c'est là que Jésus veut vous rencontrer, dans votre barque, là où ça brasse aujourd'hui. Voilà. Les disciples avaient besoin de voir Jésus agir dans leur contexte, dans leur domaine, dans leur spécialité. Et Jésus a fait tout à fait cela. Mais il devait d'abord passer par la tempête. Le problème des disciples selon Jésus, c'est quoi? Vous avez peur, vous avez passé de foi. La tempête révèle le niveau de la foi. On le comprend, n'est-ce pas? La tempête révèle leur peu de foi et l'abondance de la peur. Je vous propose ce matin que le problème principal de tout chrétien sera toujours le même, mon manque de foi. Ça revient toujours à cela. Vous allez devenir chrétien le jour que vous placez votre foi en Jésus-Christ, et votre foi à Jésus-Christ va toujours être la mesure de votre marche chrétienne. Et votre foi, elle va augmenter et elle peut aussi diminuer. Le problème principal de chaque chrétien qui revient nous hanter toujours, c'est notre manque de foi. Et ce texte nous permet, il me semble, de mieux comprendre cette foi-là. De mieux comprendre, ça veut dire quoi? Avoir peu de foi ou avoir plus de foi? Et j'aimerais qu'on s'arrête sur 4 éléments dans ce texte, il me semble, qui nous parle de cette foi-là. La foi qui est la mienne, la foi qui est la tienne, du moins, je te la souhaite. Premier élément, c'est que la foi, c'est une qualité surnaturelle. Elle nous vient d'en haut pour nous habiter, nous. C'est une qualité surnaturelle. Elle vient prendre la place de quelque chose de très naturel en nous, qu'on appelle la peur. Je me souviens, moi, de ma plus grosse peur de ma vie. J'avais 17 ans, le 25 octobre. J'ai eu peur, pas à peu près, une peur terrible pour un gars de 17 ans qui n'avait aucune peur. Je l'ai eu, la peur. Et dans les minutes qui ont suivi, j'ai donné ma vie à Christ. J'ai placé ma foi en lui. Peur et foi. deux opposés. Donc la foi a une certaine qualité. Elle est surnaturelle, elle vient prendre la place de ce qu'il y a de naturel en nous, c'est-à-dire la peur, ou un synonyme qu'on n'aime pas beaucoup, synonyme de peur, inquiétude. On préfère inquiétude. Inquiétude, c'est... La peur, c'est un peu gênant. L'inquiétude, bien, c'est normal, c'est naturel. Inquiétude, peur, ce matin, je les utilise comme synonyme. Beaucoup de peur, peu de foi. Peu de peur, beaucoup de foi. C'est une balance en deux opposés, la vie chrétienne. Tu veux mesurer ta foi, mesure ta peur. Et fais le ratio inverse. Jésus dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Foi et peur seraient mutuellement exclusifs l'un de l'autre. Est-ce que foi et peur peuvent s'entremêler? Bien sûr, mais elles se rencontrent toujours en face à face, foi et peur. Elles se croisent, l'une allant par là, vers là, et l'autre allant vers là. L'une vers l'est, l'autre vers l'ouest. Elles voyagent sur la même route, foi et peur, mais jamais dans la même direction. Elles se connaissent, foi et peur, mais la place que l'une prend est toujours de la place qu'elle vole de l'autre. Aussitôt que l'une fait un pas de reculon, l'autre fait un pas vers l'avant. Aussitôt que l'un fait un pas vers l'avant, elle pousse l'autre vers l'arrière. Oui, foi et peur peuvent s'entremêler. Mais on ne peut pas avoir full peur et full foi. Moitié-moitié? On présume, disons que oui. Zéro peur et zéro foi, ce n'est pas possible non plus si tu es disciple de Jésus. Il y a en moi un espace pour la foi. Et cet espace-là peut être rempli par la foi ou par la peur. L'un ou l'autre, les deux ensemble parfois, mais ensemble temporairement, parce que ça s'en va dans une direction ou ça s'en va vers l'autre. L'une cherchera toujours à sortir l'autre. Qu'est-ce qui habite ton espace vital de croyant ce matin? Foi au max? Confiance? Ou peur au max? L'auteur aux Hébreux a dit « La foi est une démonstration d'une assurance là où on aurait pu voir plutôt la peur. » La peur, vous savez, ça se voit, n'est-ce pas? Quelqu'un qui a peur, vous le voyez, hein? Quand Jésus ouvre les yeux, en tout cas, il voit la peur là, dans leur regard, ça tremble, ça crie, ça saute, ils ont peur. La peur, ça se voit. Vous êtes d'accord? Oui, il y en a qui ont argumenté, qui veulent faire une maîtrise en théologie ou en psychologie, vont me dire qu'on peut la cacher, la peur, c'est vrai. Mais ça se voit, la peur, normalement. La foi, qui est l'opposé de la peur, elle aussi, elle se voit, elle s'entend, tout autant que la peur. On fait erreur de penser que la foi, c'est quelque chose d'intérieur, dans mon cœur, que personne ne peut voir, je crois en Jésus, juste, non, si tu crois, ça va se voir, surtout lorsque vient la tempête. Et toi comme moi, nous avons nos tempêtes. Ne vous inquiétez de rien, écrit l'apôtre Paul aux Philippiens, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien, mais faites confiance. Premier élément dans notre texte, et je vais accélérer, c'est que la foi, elle a une qualité surnaturelle qui veut venir chasser la peur, qui est une qualité naturelle. Deuxièmement, si la foi, elle a une qualité ou une nature, elle a, semble-t-il, aussi une quantité. On vient d'en parler en partie. Elle a une quantité. On peut en avoir beaucoup, moyennement, peu ou pas du tout. La foi peut nous habiter un peu, moyennement ou beaucoup. Elle peut être petite, moyenne ou énorme, la foi. En fait, plus que cela, la foi peut augmenter en quantité ou diminuer en quantité. La foi que Jésus cherche chez la personne qui suit Jésus, c'est une foi qui peut, heureusement ou malheureusement, diminuer ou augmenter. Il faut que tu mesures pas seulement ta foi ce matin, mais est-ce qu'il est en train de grandir ou en train de diminuer? C'est bien beau de dire « j'ai beaucoup de foi », mais est-ce qu'elle est en train de diminuer ta foi? Elle diminue la foi quand? Souvent dans l'épreuve, dans les difficultés. Et que fais-tu pour l'augmenter, pour y ajouter, pour la multiplier cette foi? Donc la foi a une certaine qualité surnaturelle, elle a aussi une quantité, elle se mesure. Troisièmement, la foi, elle augmente lorsqu'on l'exerce. Évident, n'est-ce pas? On le voit entre les lignes dans le texte. À quelque part, Jésus est en train de leur dire, « Votre foi, là, comment ça vous ne l'exercez pas? Vous en avez ou vous n'en avez pas? Vous me démontrez que vous n'en avez pas, ou du moins très peu. » Vous connaissez ce beau passage des Écritures, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Un des beaux versets pour un directeur d'école biblique. Venez à Etami Bivi, venez lire, entendre, étudier la Bible et votre foi va... Elle va exploser votre foi. Ce texte nous dit que c'est beaucoup plus que ça. Ce texte et toutes sortes d'autres textes dans les Écritures nous disent que non, la foi ne vient pas seulement, oui, elle vient de ce qu'on entend, mais elle vient aussi de ce qu'on exerce. On doit exercer la foi qu'on a entendue, autrement elle va diminuer. Et je crois que les évangéliques, nous sommes tombés dans ce panneau-là. Tout ce qu'on fait, c'est de lire et d'étudier la Bible, et on ne se coache pas suffisamment dans l'exercice de ce qu'on lit. La foi, elle s'accroît lorsqu'elle est exercée. Les disciples avaient entendu l'enseignement, ils avaient vu les guérisons. Quand est venu le temps de mettre en pratique, ils ont failli. Et leur foi s'est retrouvée à quasiment rien. Il faut l'exercer. Il faut l'exercer surtout, j'oserais dire seulement, dans des circonstances difficiles, menaçantes. C'est là qu'on a besoin de la foi. C'est là que notre foi est mesurée. Toutes sortes de textes des Écritures nous disent « C'est dans le feu que ta foi est révélée. » Ce n'est pas dans le jardin avec les fleurs partout, là. La vraie foi que tu as, tu la mesures dans les difficultés. Et tu vis les difficultés présentement. On en vit tous. Des épreuves, des tempêtes. Et c'est là qu'a lieu maintenant l'épreuve de ta foi. Et la tempête peut diminuer, même tuer ta foi, ou elle peut l'amener dans la direction totalement contraire, faire de toi un homme, une femme, avec beaucoup plus de foi. Combien de circonstances que nous avons, évidemment, qu'on n'a pas choisies, qui sont éprouvantes, où je souhaite garder la vie. Je souhaite ma vie, ma paix, ma sécurité, mon estime de soi, mon identité, ma réputation, mon dû, ma santé, mon argent, mes amis, mes biens, mes capacités, ma famille, et ça, c'est menacé. Et c'est là que la foi vient au rendez-vous. Au réveil, Jésus n'est pas content de ses disciples. On est élevé au Québec avec cette peur de Dieu, hein? Dans les générations précédentes, ma mère me disait toujours, ma mère s'est comme détournée de Dieu parce qu'on lui avait tellement fait peur avec un Dieu punissant. Et je suis presque gêné de dire ici que Jésus n'était pas content. Il n'était pas content avec ce qu'il voyait. Mais vous le lisez dans le texte aussi, on doit être honnête avec le texte. Mais la question se pose, si Jésus n'est pas content, vous avez peur, peu de foi, je me pose une question, je vous la pose, dites-moi ce que vous en pensez, 3-4 réponses, voici la question. Qu'est-ce que Jésus aurait donc bien voulu les voir faire, cette gang-là? Qu'est-ce qu'il aurait voulu qu'ils fassent pour que Jésus leur dise « Ah! Oh, ah oh plus! Une foi incroyable! Père, merci! La foi, je la vois, j'y travaille, j'ai les formes, puis là, je la vois. » Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire, ces disciples, pour que Jésus les félicite? Michel. Aller se coucher avec Jésus, n'est-ce pas? Il restait de la place. Très intéressant. On va y revenir. Faire comme Jésus faisait. On trouvera pas, la réponse n'est pas dans le texte. On ne la trouvera pas, mais bonne piste, merci. Geneviève? Prier. Prier. Il n'y a rien qui nous laisse croire qu'il priait. De crier au secours, oui, c'est une forme de prière, de crier ça à Jésus, mais de dire, écoute, les gars, là, on va prier, on se calme, on va prier. Autre suggestion, qui sont des marques de foi, louer, se mettre à louer en plein milieu de la tempête. Excellent. Autre chose que Jésus aurait peut-être voulu qu'il fasse. Prendre autorité. Pourquoi est-ce que c'est possible que ça soit vrai? Hein? Oui, oui. Mais dans le texte même, qu'est-ce qui nous indique que peut-être Marie-André a raison? Jésus, il fait deux choses. Il a dormi, Michel est sur la bonne piste, et il a pris autorité, Marie-André sur la bonne piste. Je fais partie, moi, de ceux qui croient que tout ce que Jésus a dit et a fait, c'était toujours pour former ses disciples. Tout ce qu'il faisait, c'était pour les enseigner à faire comme lui. Lorsqu'il délivrait un démoniaque, checkez ça, les gars, parce que moi, je ne suis pas ici pour encore bien longtemps. Ça sera à vous à le faire, n'est-ce pas? Une guérison, même chose. Quand Jésus enseignait les disciples, il les enseignait eux, mais il les enseignait aussi à enseigner. C'était toujours de la formation. Et je pense que Jésus, et ça suscite des difficultés, des problèmes, mais on n'est pas ici pour diminuer les difficultés. Je pense que Jésus a fait ce qu'il aurait voulu qu'il fasse. Il leur montre. Quand Jésus prie, n'est-ce pas? Et le sermon sur la montagne, on parle de prière aussi. Notre Père se trouve là. Mais quand Jésus prie, il prie avec ses disciples. Je pense que Jésus a hâte que ses disciples lui disent, ben, écoute, montre-nous donc aussi comment prier. Tout ce que Jésus faisait, c'était pour être un modèle, un exemple, un formateur, le rabbin, le professeur par excellence. Jésus aurait aimé qu'ils exercent leur foi. Ils ne l'ont pas exercée. Jésus leur a montré comment exercer la foi. Lis les évangiles. À chaque fois que tu rencontres Jésus, il est en train de te montrer comment exercer ta foi. Il était fatigué. Il était à bout. Il était un homme totalement, entièrement dépendant de Dieu. Et il veut nous montrer comment faire de même. Jésus est donc notre modèle de foi. Faisons comme lui. La louange, la prière, merci. Geneviève, j'avais aussi pensé cela. La foi a une certaine qualité, elle est surnaturelle, elle a aussi une certaine quantité. Et troisièmement, la foi. Et elle peut s'accroître à mesure que nous l'exerçons. Et si nous ne l'exerçons pas, nous la perdons. Nous ne la maintenons pas, nous allons la perdre. Et Jésus ici aurait aimé qu'ils exercent la foi. Ils ne l'ont pas fait. l'opportunité reviendra. J'aime beaucoup. On peut échouer autant qu'on veut en tant que chrétien. Le professeur, il ne nous lâche pas. Il nous réinscrit à la prochaine session. Puis il revient avec la même leçon, jusqu'à temps qu'on réussisse. C'est incroyable, hein? C'est merveilleux. Où en est ma foi aujourd'hui? Où est-ce que Jésus voudrait que j'exerce ma foi, moi, aujourd'hui, et toi? Dans quel domaine? Où se trouve la fournaise ou l'orage? Quatrième et dernier élément, la foi a une raison d'être. La foi a une raison d'être. Elle a une qualité, elle a une quantité, elle a un exercice nécessaire, mais elle a aussi une raison d'être. Pourquoi exercer la foi? C'est-tu pour survivre la tempête ou c'est-tu autre chose? La foi a une raison d'être et sa raison d'être, c'est l'avancement du royaume de Dieu. L'avancement du royaume de Dieu, c'est la mission. J'ai une foi, je l'exerce parce que la mission dépend de cette foi-là. La foi fait partie de la mission. Jésus a constamment exercé la foi. C'était au cœur de sa mission. Et je dois la faire et tu dois la faire aussi. On doit exercer la foi si le royaume de Dieu est pour avancer. Dans un texte biblique comme celui-ci, on est dans Matthieu chapitre 8, verset 23, on a regardé ce qui précède. On ne doit jamais laisser un texte biblique sans regarder ce qui suit. Parce que tout à coup, ce qui est là est expliqué par ce qui suit. Ou tout à coup, ce qui suit serait explicable par ceci. Qu'est-ce qui suit notre texte? Le verset suivant. Quand il eut abordé sur l'autre rive dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant des tombeaux vinrent à sa rencontre. Ils étaient si redoutables que personne n'osait passer par là. Jésus va délivrer deux démoniaques. Il y avait l'avant-tempête, on en a parlé, où Dieu te prépare, te renfort pour la tempête. La tempête, elle vient et Jésus promet, l'apôtre Paul dit, « Aucune tentation ne t'est survenue qui sera au-dessus de tes forces. » N'est-ce pas? Il n'y aura aucune tempête. Dieu nous prépare pour la tempête. Il y a l'avant-tempête, mais ensuite, il y a la tempête. Mais il y a aussi l'après-tempête. L'après-tempête. La tempête, elle est pour l'après-tempête. Il y a quelque chose que Dieu prépare dans ta vie. Il y a un appel qu'il met sur toi. Et la tempête est là pour te préparer à répondre et à faire et à être ce que Dieu te demande de faire. Il y a la tempête, mais il y a deux démoniaques de l'autre bord là-bas. Ils attendent la barque. Leur délivrance n'aura pas lieu si ses disciples et leur sauveur n'exercent pas la foi, ne tiennent pas le coup, soit en dormant, soit en prenant autorité. Ces deux hommes démoniaques n'auraient pas pu être délivrés. La tempête dans ta vie, la tempête dans ma vie, c'est pour la mission à laquelle tu es appelé. Il y a des Gadaréniens autour de toi. Ce n'est peut-être pas des gens possédés, mais c'est des gens qui ont besoin d'entendre, de voir ta foi. Commence à l'exercer un peu plus cette semaine. Place-les en Jésus. Des fois, tu vas crier à Jésus, « Sauve-moi Jésus, ça c'est bon, c'est tout à fait correct. » Il y a d'autres fois où Jésus va dire, « Je suis là. » Mais vas-y, Luce, fonce, prends autorité, prie, louange, dors. Quand on lit Hébreux chapitre 11, qui commence en disant « La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas », tout ce qui suit, ce sont des hommes et des femmes qui ont agi par la foi Abraham, par la foi a quitté par la foi celui-ci ou celle-là a fait ceci. La foi nous pousse toujours à agir. Et c'est l'appel de Dieu, je pense, sur notre vie ce matin, de grandir dans la foi. Prions ensemble et je termine après la prière avec 3-4 minutes avant d'inviter la louange de revenir. Prions. Seigneur Jésus, merci d'être dans ma barque. Pour moi, ce n'est pas la barque du pêcheur parce que, ou du marin, mais j'ai d'autres barques où, quand ça va mal, ça va mal. Et je te remercie d'être dans cette barque-là en train de me former. Seigneur, merci de nous former ce matin. Merci pour ta patience. Merci pour ton honnêteté. On a besoin, Seigneur, que tu nourrisses notre foi. Merci pour ta parole. Donne-nous maintenant le courage de l'exercer, cette foi, aujourd'hui même, d'agir autrement que par la peur. Je te confie ma vie, Seigneur Jésus. Il y a trop de tempêtes pour que je puisse mettre de l'ordre tout seul. Je te confie, Seigneur, mon cœur avec toutes ses tendances, mes pensées avec toutes ses déformations, et je te demande de venir me remplir de ta présence, de ton pardon, Seigneur Jésus. Je place ma foi en toi, Jésus, et je veux l'exercer cette semaine. Je veux passer à l'action, être un homme, une femme de foi. Au nom de Jésus. Amen.